Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est patinage artistique. Ça s'appelle les figures imposées. Dans les prédications, il y a les figures libres et les figures imposées. Les figures imposées, c'est de suivre donc l'évangile que nos anciens ont décidé de mettre en place en études régulières. Et c'est tombé sur moi, donc je vais essayer de le double axel et le triple saut floupi arrière sans me casser la figure, en espérant que vous apprécierez la musique. Et en plus, ce qui est tombé sur moi, c'est pas facile, c'est les noces de Cana. Les noces de Cana, ça c'est le béaba du patinage artistique. C'est le simple saut. Même ceux qui ont jamais fait de patinage artistique, ils vont sur une patinoire, ils font hop hop, ils ont fait les noces de Cana, parce que tout le monde connaît les noces de Cana. Ça fait partie du patrimoine culturel, même des non-croyants. C'est le plus connu des miracles de Jésus, avec la multiplication des pains et la marche sur l'eau. Quand les gens ils font des blagues sur le christianisme, ils disent multiplication des pains, c'est le self-service. La marche sur l'eau, c'est le ski nautique, et les noces de Cana, c'est l'open bar. Donc ça vient régulièrement. Donc, vous parlez avec n'importe qui ne connaît pas la vie de Jésus, qui n'est pas chrétien, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Ça fait un peu tour de magie, et c'est aussi, évidemment, de manière plus sérieuse, en termes d'éléments de patrimoine culturel, beaucoup de peintures, beaucoup de livres ont été écrits sur ça. Je vous ai apporté le plus connu, vous connaissez, de Véronèse, la Renaissance, l'immense tableau qui est au musée du Louvre, les noces de Cana, où c'est une reproduction à la mode vénitienne, hein, mais voilà. Ça. Donc on est vraiment dans de l'hyper connu, j'allais dire du lieu commun, et les anciens ont souhaité quand même, puisqu'on suit l'évangile verset par verset, qu'on tente d'y voir, pas un peu plus clair, mais de voir différemment des choses que, a priori, nous connaissons tous par cœur. Et c'est un exercice très utile, finalement, parce que peut-être que derrière les apparences que l'on croit n'être pas des apparences, en fait, se cachent des choses plus précieuses que notre certitude de connaître par cœur nous empêche d'aller visiter. Donc c'est ce que j'essaye, ce que je vais tenter de faire avec vous ce matin, d'essayer ensemble de voir si on peut, sans du tout renier ce qui a été dit et très bien dit par des centaines de théologiens, de prédicateurs, peut-être quelque chose, non pas de nouveau, je n'ai pas du tout cette prétention-là, mais peut-être un angle différent qui pourrait nous faire du bien. Car si on est là pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour être assemblé, c'est pour se faire du bien et pour repartir encore plus gonflé de cette espérance en Christ qui est la nôtre. Sinon, ce n'est que du bavardage et ça n'a aucun intérêt. Donc, tout de suite, je vais dire ce que l'on sait des noces de Cana. Si je vous interrogeais comme ça, je suis sûr que vous me diriez la chose suivante. C'est que Jésus se met à la portée de nos plaisirs, il intervient dans nos vies, même dans un quotidien assez banal, pour nous faire du bien à travers cette eau donc, qui est transformée en vin. On dit aussi qu'il donne en abondance, hein, parce que ce sont des centaines de litres qui sont déversés sur les invités. Et puis il y a aussi la symbolique des noces, hein, entre Jésus et l'Église, avec la croix en point d'orgue. Quand dans la scène, il dit que le vin devient le sang, donc il y a toute une symbolique qui a été mise en place autour de ça, et que ce premier miracle est aussi une forme de mise en appel de ce qui va se passer quelques années plus tard sur la croix. Et que c'est le début des noces, en fait, entre Dieu et les hommes, à travers le sang du Christ. Et puis, puisqu'on a un prédicateur de renommée internationale parmi nous, Yann Bangtel, qui, il y a quelques temps, des mois, des années, je ne sais pas, vous vous souvenez, il avait déjà parlé des noces de Cana. Il avait dit des choses très intéressantes. Il nous avait dit que c'était un tour de magie complètement raté, puisqu'il n'y avait pas de témoins, que le secret était gardé, que les seules personnes qui en profitent étaient à moitié ivres, donc ne se rendaient même pas compte qu'ils buvaient du bon vin. Tout ça dans son style caractéristique pour nous faire comprendre la vérité suivante, que en fait ce miracle c'était aussi la fin de la loi, puisque les fameuses jarres dans lesquelles on met de l'eau qui devienne du vin, c'était des jarres de la purification pour les juifs, et que donc, une fois qu'elles avaient été utilisées pour le vin, devenaient totalement inutilisables. Donc la loi était mise de côté, et c'était la nouvelle ère qui commençait, l'ère de la grâce par Jésus. Voilà. Donc, je pense là avoir résumé assez rapidement ce que nous savons tous, intuitivement, et de nos connaissances, de nos lectures, et des prédications que nous avons pu entendre sur ces noces de Cana. Mais enfin, quand même, pour être sûr, je vais vous la relire une fois pour vous remettre les idées, parce que là, je parle, finalement. Alors, il faut quand même revenir au texte, et vous verrez qu'à travers le texte, tout ce que je vous ai dit vous reviendra de manière claire et précise. Mais je ne veux pas parler dans le vide, donc relisons. Donc, nous étions arrivés au chapitre 2, puisque Emmanuel, Daniel et puis Yann, la semaine dernière, en faisant une vision un peu générale avec des apartés sur Pierre, nous avaient mené à ce chapitre 2. Donc, trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voilà. La figure imposée est là. J'essaie de parler un peu plus lentement que d'habitude, parce qu'un de mes frères, qui m'est très cher, m'a dit que je parlais trop vite d'habitude. Donc j'essaye de tenir compte des remarques pour progresser. Alors, donc, à la lecture de ce texte que vous connaissez, vous avez évidemment entendu, reconnu tout ce que nous en savons. Alors moi, quand je lis un texte, un peu comme notre ami David l'a dit, si ce n'est qu'un texte historique, mais qui ne m'interpelle pas, très vite j'ai l'impression de tourner en rond. Donc, en relisant ceci, je me suis posé trois questions. Est-ce que ce texte est toujours actif ? Est-ce qu'il a encore du sens pour nos contemporains, en dehors même de sa portée spirituelle, je dirais ? Deuxièmement, qu'est-ce que nous raconte ce miracle aujourd'hui ? Et enfin, dernière question, en quoi nous est-il dans nos vies personnelles ? Et c'est à ces trois questions que je souhaiterais répondre en essayant de... J'ai des réponses que j'ai évidemment trouvées et elles m'ont fait du bien, j'espère qu'elles vous en feront à vous et c'est vraiment toute mon espérance. La première question, est-ce que ce texte est toujours actif ? Est-ce qu'il dit quelque chose ou est-ce que c'est un bout de quelques lignes dans un vieux livre qui pour nous a un écho mais n'en aurait pas pour les autres ? Pour essayer de répondre à cette question, il faut, je pense, remettre ce texte dans son contexte, évidemment. Et ce contexte, c'est le début de l'évangile de Jean. On ne peut pas sortir les noces de Cana de tout le reste. Ça tombe bien, tout le reste a déjà été vu précédemment. Pardon, j'ai dit Emmanuel, Daniel et Yann. Mais moi, j'ai eu besoin de le voir aussi sous un autre angle. Alors, puisque je parle, est-il toujours actif dans notre société ? Notre société, c'est une société de l'image, une société du visuel. Et comme je l'avais déjà fait il y a très longtemps sur une prédication sur Zachée, pas si vous vous souvenez à l'époque où M. Sarkozy n'était pas encore président, il était tout tout petit. Enfin, j'avais fait un rapport sur ça. J'avais une vision cinématographique de la scène de Zaché. Et là, ça m'est retombé dessus. Et ça m'a aidé à essayer de mettre les noces de Cana dans un contexte très très précis. Je vous demande de faire un petit effort. Imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma, un grand écran, et reprenons ce qui a déjà été vu sur l'évangile de Jean, et on va se rendre compte en fait qu'on est dans un film à grand spectacle, où les choses sont très bien faites, où les événements se mettent en place les uns après les autres, pour nous mettre dans une situation d'attente et d'être prêt à accueillir le message de Jésus. Dans la toute première partie, donc au commencement était la parole, je ne vais pas le relire parce que tout ça a été fait les semaines précédentes, jusqu'au verset 14, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous sommes en fait dans une bande-annonce. L'évangile de Jean commence comme une bande-annonce, une forme de teasing. Vous vous souvenez, il y a longtemps, je parle au plus ancien, le teasing c'est une manière de donner envie aux gens de voir la suite de ce qui va se passer. Il y avait une agence de publicité qui avait inondé les murs de France. On voyait une belle jeune femme en maillot de bain et demain, j'enlève le haut. Et puis, deux semaines après, la jeune femme avait enlevé le haut. Heureusement, les mains étaient placées. Et ensuite, il y avait marqué demain, j'enlève le bas. Il est fou. Et le lendemain, ils avaient remis le haut. La dame était de dos, en tenue d'Ève, mais pudiquement cachée, mais quand même, la promesse avait été tenue, et en fait, on avait compris à ce moment-là que c'était un publicitaire qui, pour se faire de la pub, avait dit « Moi, je tiens mes promesses, donc venez, donnez-moi vos campagnes de presse, ça fonctionnera. » Eh bien, nous sommes absolument là. Toute la première partie de l'Évangile de Jean, c'est un gigantesque teasing, et on peut très bien imaginer, donc je vous dis, on est dans un cinéma, vous avez la Terre en panoramique, vous savez, maintenant on peut, une espèce de grande vision de la Terre, et on a la voix off qui nous raconte au commencement était la parole, etc. Puis, la bande-annonce continue, soudain, apparition du témoin, du verset 15 au verset 28, où Jean-Baptiste arrive, et là, la caméra se rapproche, vous savez, comme sur TF1, quand ils veulent montrer qu'il y a un événement qui s'est passé, il y a Google Earth, là, et on arrive sur le bord du Jourdain, et là, il y a le témoin qui parle de quelqu'un d'extraordinaire qui va venir avec les pharisiens qui disent des choses à droite, à gauche, des éclats de voix, des petits personnages qui, hop, donnent des bribes d'informations sur quelque chose qui va arriver et qui est tout à fait étonnant. Donc là, nous sommes tenus en haleine et nous arrivons, la bande-annonce se termine, lumière dans la salle à ce moment-là, et le film peut commencer. Et le film, il va commencer, donc là encore, un générique de la musique qui passe, et en gros, le titre du film qui commence. Le titre, ça va être, au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le titre du film que Jean nous propose, c'est ça. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et là, enfin, avec ce teasing qui nous a vraiment attirés, on voit le héros apparaître, Jésus, mais de dos, furtivement. Il vient juste se faire baptiser et il repasse. Il ne parle pas encore. Et là, le générique continue et nous passons en petites images. Trois fois de suite, il y a marqué le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et en fait, pendant ce générique, nous voyons apparaître les personnages principaux. Donc Jésus qui est là, qui intervient en image rapide et surtout apparaît sur l'écran en même temps que le nom des comédiens, donc les personnages principaux, André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël et quelques autres. Tout ça se met en place pour attirer notre regard, pour que nous soyons prêts à accepter ce qui va arriver. Un peu comme si Jésus montait sa bande des sept mercenaires. Vous savez, c'est le grand truc dans les films. Ça commence comme ça, quand on veut monter dans un film où il y a un casse, où ils veulent sauver le monde, comme Bruce Willis, les premières images du film, ils vont chercher des gens qui ont des compétences différentes pour former la bande qui va être capable de mettre en place le plan désiré. Et au verset 51, le générique se termine sur cette phrase qui annonce qu'on n'est pas venu voir ce film pour rien, qu'il va vraiment se passer quelque chose de fort. « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Là, nous sommes vraiment au cœur du début du film qui va pouvoir débuter réellement. Et nous arrivons aux noces de Cana. C'est à ce moment-là que les noces de Cana se mettent en place, après ce plan d'abord très large, la terre générale, présentation au début, la parole, etc. On resserre. On voit le prophète qui dit « Je vais vous parler de quelqu'un. Qui ?» Et les gens en parlent, tac, 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 comme ça. Puis soudain, cette personne apparaît, une ombre furtive. Elle va chercher des personnages qu'on voit rapidement. Jésus ne donne n'échange avec eux que des paroles très, très, très rares, très précises, même un peu compliquées à comprendre. Tout ça n'est pas simple. Tout ça est fait pour nous mettre en situation de vraiment comprendre ce qui va se passer. Et le film commence vraiment. Et la première scène du film, c'est les noces de Cana. Et là, on comprend que le film commence vraiment parce que contrairement à tout ce qui s'est passé précédemment, tout devient simple. Il y a unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Avant, tout était éparpillé. Au commencement, ça a commencé il y a des millions, des milliards d'années, c'est même pas dit. Puis le lendemain, il y a ceci, puis il y a un homme, puis il y a un autre, on vient. Tout ça n'est pas précis. Tout ça a été fait pour nous mettre en position. Mais là, ça commence vraiment. Mais ça ne commence pas. Pour comprendre ce qui se passe aux noces de Cana, il a d'abord fallu passer par tout ce préambule dont il a déjà été question et qui, visuellement, tel que je l'explique, peut aussi donner une porte d'accès plus simple. Donc je disais unité de lieu, de temps, d'action, un lieu unique, le village de Cana, même donc cette fameuse salle de mariage, une action précise, un mariage, et on a des dialogues, des comédiens, des figurants, quelque chose où l'esprit peut s'apaiser et peut essayer de comprendre calmement une situation fort simple. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette situation fort simple, quand on en parle, quand je vous remonte le tableau de Véronèse, malheureusement, il est en petit, j'ai pas eu le temps de demander à José de nous le présenter, c'est de ma faute. C'est un immense tableau, donc, il est au Louvre, et il montre la noce, le vin qui est livré, etc. Or, en fait, quand on lit les noces de Cana, on se rend compte que ça se passe pas du tout là. Les noces de Cana, c'est dans l'arrière-cuisine. C'est dans les couloirs, c'est partout, sauf là où sont les invités et où la fête bat son plein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film « Cuisine et dépendance » de Jaoui et Bakri, où c'est un film très amusant, qui est une pièce aussi, où c'est des gens qui reçoivent d'autres gens. Donc ça se passe dans la salle à manger, mais on ne va jamais dans cette salle à manger. Tout le film se passe dans la cuisine et dans le hall qui est avant la cuisine, où les gens sortent de la salle à manger et viennent soit prendre un plat, soit faire un commentaire sur ce qui s'est passé dans la salle à manger. Ben là, c'est absolument ce qui se passe. Nous sommes en dehors de la salle de fête et où Jésus, pour une raison pour une autre, est venu et sa mère lui dit « manque de vin », etc. L'ordonnateur revient pour comprendre ce qui se passe. Il appelle l'époux qui vient. On est en dehors du lieu public, on est dans le lieu intime. Et ce lieu intime, il va nous dire quelque chose. Parce que si on oublie l'esprit fête, l'esprit public qu'on aurait tendance à avoir dans la tête, on va peut-être pouvoir répondre à la deuxième question. Car la première question, donc, qui était la mienne, je vous le rappelle, est-ce que c'est un texte toujours actif? J'ai essayé, par le biais du cinéma, peut-être de manière un peu grossière, de vous montrer qu'on pourrait très facilement, pour des profanes, en faire quelque chose d'intéressant, de brillant, qui donne envie d'en savoir plus même sans du tout être dans le partage de cette foi-là. Et ma deuxième question, c'était, que nous raconte ce miracle aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Voilà, un extrait, merci. Alors, ce n'est qu'un extrait, c'est vous dire que si vous allez au Louvre, vous verrez cette toile magnifique qui va défiler derrière moi. Merci, José. Donc, que nous raconte ce miracle aujourd'hui? Eh bien, il nous raconte quelque chose, en dehors de tout ce qui a été dit précédemment, des grandes lois qui ont été tirées, que j'ai données en un exergue de cette prédication. Il nous raconte quelque chose, si on le prend sous l'angle de la scène intime que j'ai mis en place à travers ce grand zoom général. Pour qu'un film ou un roman ou une pièce de théâtre marche, il faut qu'à un moment, chaque spectateur, chaque lecteur ou chaque auditeur se sente concerné personnellement par ce qui se passe sur l'écran ou dans le livre, ou, etc. Et pour qu'il puisse ensuite avoir le sentiment qu'il puisse s'identifier à ce qu'il voit ou ce qu'il lit par rapport à son existence. Et les plus gros succès de tous les temps, ça a toujours été les histoires d'amour. Quand on parle d'amour, tout le monde se reconnaît parce que tout le monde vit plus ou moins bien ou a vécu une histoire d'amour avec une personne de l'autre sexe, mais aussi avec ses parents, avec un ami. Enfin, l'amour au sens large, c'est ce qui fonctionne, ce qu'on appelle les bons sentiments dans la littérature. Et j'ai l'impression que les Noces de Cana, en dehors de tout ce qui a été dit, que je ne renie pas, c'est avant tout une merveilleuse histoire d'amour. Et si on la voit sous l'angle de l'intimité, tel que j'ai tenté de vous le présenter précédemment, on peut vraiment être présent dans cette histoire d'amour qui est l'histoire d'amour, non pas entre Jésus et ses invités, parce qu'ils ne se rendent même pas compte, ils reçoivent du bon vin, mais ils sont à moitié sous, donc ce n'est pas comme ça que ça marche, pas entre Jésus et ses disciples, pas entre Jésus et les serviteurs, mais entre Jésus et sa mère. Et cette histoire d'amour entre sa mère et son fils, elle traverse les évangiles d'une façon très, très, très fine, puisque en fait, il n'y a que trois fois où il y a un dialogue ou une prise de parole entre Marie et Jésus. Tout le reste du temps, soit elle est juste nommée, soit on n'en parle pas. La première de cet échange de paroles, c'est dans Luc 2, 41-51, donc Luc chapitre 2, où les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il y a déjà quelques similitudes que l'on peut voir dans la manière dont la mère réagit, dont Jésus réagit. Ce qui est intéressant, c'est que cette première étape, on a l'impression d'avoir une mère presque inconsciente. Elle part, elle laisse son fils. C'est quand même incroyable. Il lui faut quelque temps avant de se rendre compte qu'il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'elle l'imagine encore comme un enfant jouant avec ses amis dans la caravane du retour. Elle n'a pas encore pris conscience du rôle exact que Jésus va jouer pour l'humanité et de sa position tout à fait extraordinaire par rapport aux autres hommes. Peut-être aussi parce que Joseph, le père, est encore là, le père adoptif, si je puis dire, et donc elle se repose sur lui et sans être du tout agressive avec son fils, elle lui demande ce qui se passe. Et cette réponse, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» n'est pas dit du tout méchamment, c'est juste une information. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ensuite, Jésus rentre, soumis, comme il est dit, à l'autorité de ses parents. On a l'impression qu'à ce moment-là, la mère, et c'est normal parce qu'il n'a que 12 ans, ce fils, domine le fils, au sens de... c'est elle qui prend les décisions, parfois pas les bonnes puisqu'elle l'oublie, mais c'est elle qui le reprend, et c'est lui qui rentre dans le rang, puisque ce sont les injonctions de ses parents. Dans la deuxième partie, donc c'est les noces de Cana, c'est la seconde fois où Marie et Jésus ont un dialogue commun, nous l'avons lu il y a peu de temps. Là, alors beaucoup de gens disent « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Prennent ça comme une phrase agressive de Jésus pour sa mère. Alors moi, je me permets, je ne suis pas le seul, hein, il y a d'autres qui le disent, et bien plus sérieux que moi, il y a dans cet échange entre Marie et Jésus une complicité qui est absolument extrêmement riche. Elle va vers son fils et elle lui dit simplement « Il n'y a plus de vin ». Sous-entendu, je sais que tu peux faire quelque chose, je te donne une information, je ne te dis pas ce que tu dois faire, il n'y a plus de vin. Et Jésus répond, mais attends, c'est comme il avait répondu précédemment, « Ne sais-tu pas que j'ai des choses à faire pour mon père, etc. » Il répond pareil, mais ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire, j'ai toutes des étapes à suivre pour arriver à faire la volonté de mon père, et s'occuper de cette histoire de vin ne fait pas partie de mon boulot à l'heure actuelle. Mais c'est une information, c'est pas du tout une agression. Et la réponse de la mère est toute simple, elle dit pas « oui, ah bon, excuse-moi », elle dit au serviteur « faites ce qu'il vous dira de faire ». Donc, elle entend ce que son fils, non pas lui reproche, mais lui exprime. Elle-même sait que son fils a des pouvoirs particuliers qui peuvent rendre de la gaieté à cette fête qui peut-être était en train d'en perdre, sachant que c'était elle qui était invitée à ce mariage. Si on lit bien le texte, c'est elle qui est invitée, donc c'est des gens qu'elle doit forcément connaître. Et c'est parce qu'elle était invitée que du coup, ils ont dit à Jésus et aux autres, ben, venez. Venez avec Marie, on ne va pas vous mettre dehors. Il y a une forme de complicité telle qui ne peut naître que de l'amour, puisque Jésus, bien qu'il ait dit « ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon moment », va en effet faire ce miracle-là, de transformer l'eau en vin. Et ce miracle qui va se mettre en place est totalement gratuit. Je le vois, à la lecture de ça, personnellement, comme je fais cette transformation, je fais ce que tu me demandes, parce que tu es ma mère, parce que je t'aime, parce que tu me l'as demandé, et parce que, à ce moment-là, je peux le faire. Il se trouve que ça aura des effets secondaires, puisque les disciples vont croire, etc., mais ça va s'arrêter là. C'est vraiment, non pas un tour de magie pour rien, c'est un acte d'amour totalement gratuit de Jésus qui, là, en tant qu'humain, veut faire plaisir à sa mère, qui lui demande de rendre cette fête plus réussie puisqu'il y a un souci. Et si on lit ce miracle-là avec cet angle-là, il devient d'une douceur extrême. Parce qu'il est déjà la suite de ce qu'on a vu de l'évolution du premier rapport de Jésus avec sa mère tel qu'il était écrit. Et puis, la troisième fois où il va y avoir un lien entre Jésus et sa mère, vous le savez, c'est au pied de la croix. Évidemment, la mère n'est plus en état de parler, c'est simplement Jésus qui dira à Jean, femme, voici ta mère et voici ton fils, etc. Là, elle ne répond plus. J'avais dit que dans le premier, la mère dominait le fils. Dans ce qu'on vient de dire sur les noces de Cana, il y a une forme d'égalité, de complicité, d'échange. Et dans la dernière partie, évidemment, Jésus ayant monté, la mère ne dit plus rien et c'est le fils qui domine la mère. et c'est la fin terrestre de leur histoire d'amour qui est si belle, qui est si terrible. Mettez-vous à la place de cette mère, tout ce qu'elle a dû vivre et ressentir et accepter pour que son fils aille au bout de son destin. Mais c'est vraiment l'image de cet amour totalement gratuit de Jésus pour sa mère qui m'a vraiment beaucoup touché. Et je pense, quand je disais ma question, que nous raconte ce miracle aujourd'hui, c'est ça qui peut aussi nous raconter. C'est donnons à Jésus cette humanité-là d'avoir eu le temps, l'envie d'être, de partager ce moment d'amour avec sa mère. Alors évidemment, on peut s'identifier à ça avec une grande force, soit nous mettons du côté de la mère, soit nous mettons du côté du fils. Toutes les situations sont envisageables. Je voudrais juste vous rappeler une phrase de Romain Gary, donc, qui est un grand écrivain que vous connaissez, qui avait écrit dans son roman La promesse de l'aube, cette très belle phrase. Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. C'était une phrase dure, mais forte et riche. Et moi, je trouve que la Bible nous dit, à travers cet exemple-là, avec l'amour de Jésus, la vie vous fait à chaque instant une promesse qu'elle tient toujours. Et c'est cet angle-là qui me paraissait intéressant d'aborder en réponse à cette deuxième question, qui était « Que nous raconte ce miracle aujourd'hui ?» Il me raconte cet amour-là, cette simplicité-là, ce don gratuit. Le miracle n'est pas toujours là pour prouver quelque chose, pour forcer les gens à, pour leur ouvrir les yeux. Bon, d'accord, il est dit « Les disciples crurent en lui ». Mais bon, on peut croire que les disciples, depuis un certain temps, ils étaient déjà dans le bain et que ça fonctionnait bien. Mais personne d'autre n'a cru. Ce miracle n'a servi à rien. À part, ensuite, en effet, tirer la symbolique de la jarre de la fin de la loi. Mais sur le moment, c'est un miracle caché. Et du coup, on en vient à ma troisième et dernière question. En quoi nous est-il dans nos vies? Parce que là, je n'ai donné que des informations qu'on peut intellectuellement comprendre, qu'on peut, avec émotion, même en étant non-chrétien, tout à fait percevoir. Cette grande image d'un Dieu qui arrive de loin, qui vient sur terre Jourdain, puis se met sur Jésus, puis qui rentre dans nos vies d'une manière très simple et qui échange avec sa mère cette complicité, cet amour sans aucune obligation ni conséquence. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Mais si dans ma vie de chrétien, ça s'arrête là, c'est juste une belle histoire. Et une fois qu'on a passé l'émotion de notre grand cinémascope, qu'on a passé le stade de l'identification à travers ce rapport enfant-mère, qu'est-ce qui peut nous aider, nous, dans notre vie de chrétien, à avancer à l'image de ce contenu dans ce miracle? Et bien, je dirais, en paraphrasant la SNCF, qu'un miracle peut en cacher un autre. Et ce miracle qui peut en cacher un autre, c'est en fait le deuxième miracle de Jésus, parce que je me dis que ce n'est pas possible que s'il est dans la Bible, donc, il y a forcément une vérité cachée supplémentaire qui lui donne son vrai sens. Là, on n'est que dans le sens vu sous un certain angle, mais si on met le projecteur sous un autre angle, il y a forcément quelque chose qui va nous apparaître. Et j'ai été très, très surpris, je n'avais jamais noté ça, que vous avez dans Jean 4, un peu plus loin, donc le fameux deuxième miracle de Jésus, c'est le miracle où il guérit le fils d'un officier. Vous l'avez. Et après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré pour dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il est fait mention ici de ce premier miracle pour la mise en place du second. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui rapportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit !» et il crut, lui et toute sa maison. Et Jésus fit encore ce second miracle, etc. Alors, c'est amusant parce qu'on va reprendre l'idée du cinéma. On a l'impression que c'est Cana 2, Cana le retour. Le premier film a tellement bien marché qu'on en fait un second, peut-être pour expliciter, comme maintenant ils font des films, vous savez, dans le 2, ils expliquent les sources du premier parce qu'il y avait encore quelques zones d'ombre. Comme ça, les choses sont beaucoup plus claires. Alors, c'est quoi ce Cana 2 ? Ben, si vous regardez, c'est exactement la même trame que le Cana 1. Dans la première trame, nous sommes au mariage, nous sommes dans une situation de joie, mariage, là, dans une situation de tristesse, puisqu'on est quasiment aux funérailles. Il y a un événement, il est dit, à Cana, au premier, il manque de vin. Dans celui-ci, il est dit dans le texte, l'officier vient parce que son fils était aux portes de la mort. Ensuite, il y a une demande de Marie, ils n'ont plus de vin. Là, une demande de l'officier, il le pria de guérir son fils. La réponse de Jésus, la riposte, en quelque sorte, dans Cana 1, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Tu sais que mon heure n'est pas venue. Et là, réponse qui peut paraître tout aussi dure, qui est, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc Jésus, il n'est pas du tout dans le temps d'aller faire un miracle à ce moment-là. Il dit, encore, on vient m'embêter pour que je fasse quelque chose. C'était pas l'heure de changer le vin, là. Et là, c'est pas l'heure du tout d'aller guérir. Tu me demandes ça que parce que tu as besoin d'un... Bon, évidemment, tu es dans la peine, mais tu as besoin d'un miracle, d'un prodige. Et encore une fois, ce qui est amusant, c'est que Marie ne se vexe pas de cette phrase qui n'est pas agressive. Et elle dit, faites tout ce qu'il vous demande de faire. Et l'officier, lui, reprend, ne se fâche pas, il dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et à chaque fois, Jésus fait son miracle. Il change l'eau en vin, et là, il dit, va, ton fils vit. C'est amusant de voir que les seuls témoins de cette histoire, dans la première Cana 1 ou Cana 2, ce sont les serviteurs. C'est les serviteurs qui sont les seuls à avoir vu dans Cana 1 que l'eau a été changée en vin. Et là, ce sont les serviteurs qui viennent annoncer à l'officier que son fils a été sauvé. Que la bonne nouvelle passe toujours par les gens humbles qui sont au service des autres. On pourrait tirer le fil de ça, mais ce n'est pas le moment. Et enfin, les conséquences. Dans Cana 1, les disciples crurent en lui. Et dans Cana 2, lui et sa maison crurent. Dans le premier, Cana 1, c'est un miracle intime. Dans le deuxième, Cana 2, c'est un miracle pour tous. Parce que autant je pouvais m'identifier émotionnellement à l'histoire de la mère et du fils, autant je ne pouvais pas m'identifier spirituellement dans cette histoire-là. Alors que là, oui, cet officier, c'est moi. L'homme dans la peine et le chagrin, c'est moi. L'homme qui demande de l'aide, c'est moi. L'homme qui sait qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider, c'est moi. Et il est dit que la foi de cet homme est en deux étapes. La première étape, il lui dit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Quand il lui a dit, ton fils vit. Il croit à la parole. Mais il croit, c'est la première étape de sa foi. La deuxième étape au verset 25, là, quand il voit que son fils vit, il crut, lui et toute sa maison. Là, il a franchi le cap de la foi entre je crois ce qu'il me dit, c'est ma foi de espérance. Mon espérance, merci. Et là, le deuxième, il croit, ça y est, Dieu est dans son cœur et la grâce est totalement rentrée. Et la, la certitude de Jésus, la plénitude de Jésus est là. Et c'est pour ça que je disais qu'un miracle peut en cacher un autre. C'est le vrai miracle de Cana, c'est le deuxième, c'est pas le premier. Mais le deuxième n'existe que parce que le premier a eu lieu. Parce que Jésus, d'abord, s'est occupé des siens, je dirais. S'est occupé de lui, de sa mère. A été d'une humanité magnifique sur ce coup-là. Même si des centaines, véronaises ou des milliers, sur le tableau, il y en a plein, d'invités ont profité de son abondance et de sa générosité. Mais le deuxième miracle de Cana, ça, c'est le nôtre. Et je pense que ce n'est pas pour rien que il est dit dans cet évangile que c'est à Cana, là où l'eau avait été changée en vin, qu'a lieu ce deuxième. C'est pour que le parallèle soit fait. Et dans les deux cas, et ça rejoint ce que tu disais en préambule, en quelque sorte, c'est que ces miracles-là, ils n'ont pas été faits par nécessité, ils n'ont pas été faits pour démontrer quelque chose, ils n'ont pas été faits dans un plan précis, ils ont été faits pour donner de l'amour, pour montrer de l'amour. Et ça, c'est extraordinaire. Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, si nous survivons à plein de choses, si nous sommes dans l'espérance permanente, c'est parce qu'on a cet amour que l'on reçoit en permanence et qui nous donne gratuitement, gratuitement, comme dans ces deux miracles-là. Et qu'on doit les accepter, on doit les recevoir avec une force et une reconnaissance absolue. Et c'est ça qui nous tient debout, c'est ça qui nous tient en vie, malgré tout ce qu'on peut vivre et subir, qui ne va pas être drôle. De toute façon, l'histoire va mal se terminer, d'une certaine façon. Mais si on a le grand caméscope, le grand cinémascope que je vous ai montré, on sait qu'à la fin, si on continue à faire ce film, à le tirer, on va avoir toutes les scènes de la vie de Jésus, puis on va être sur la croix. Et là, il va peut-être avoir un moment un grand trou noir sur la pellicule quand Dieu abandonne Jésus. Et puis soudain, la lumière se fait. Il y a un grand zoom arrière et soudain, ça y est, on comprend tout. Tout remarche. Et tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qui nous a fait du mal, se reprend une évidence. Parce que c'est dans un plan général, mais ce plan général-là, il ne fonctionne que parce qu'il y a l'amour. Là, on avait un débat la dernière fois sur la grâce, etc. Oui, mais c'est évident que l'amour est là. Et tout dans ces évangiles, à chaque fois quand on essaie de voir, donc, de passer par des éclairages un peu subalternes, comme je viens de le faire, on retombe sur cet amour-là. Et le lieu commun de Cana, c'est pas un lieu commun. Parce que l'amour, c'est jamais un lieu commun. C'est une force extraordinaire, c'est ça qui nous meut, c'est ça qui nous donne la force d'être ce que nous sommes et d'être peut-être un peu moins mauvais que ce que nous étions avant. Et pour vraiment conclure, puisqu'on était dans le lieu commun, avec les noces de Cana et ses figures imposées, il y a une autre figure imposée que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas chrétiens dans la parole, c'est toujours dans Jean, le fameux Jean 3,16. Même les non-chrétiens le connaissent parce qu'on en parle partout. Écoutons-le sous le prisme de ce qu'on vient de lire sur Cana 1 et Cana 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. C'est une force absolue, ça. C'est notre glaive, c'est notre chance, c'est notre joie qu'elle ne nous abandonne, que nous ne l'abandonnions jamais, que nous en soyons persuadés tout le temps et qu'on en remercie Dieu.